Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs,
bonjour Francine,
bonjour Mathieu,
bonjour.
Nous sommes vendredi le 20 janvier. En fait, en regardant dehors, est-ce que vous vous êtes posé la question sur quel jour on était?
Ben pas du tout, parce que je trouve qu'il y avait une continuité avec vendredi dernier. Neige plus neige.
Exactement.
Alors, je trouve que c'est un bon indicateur.
C'est ce que je trouve. J'écoutais la météo hier, puis ça disait il va y avoir de la neige dans la nuit de jeudi à vendredi. J'ai dit, c'est sûr, il neige, c'est le vendredi.
Mais c'était pas le même type de neige que la semaine dernière. Aujourd'hui, c'était une neige que j'aime beaucoup. Je l'appelle la neige qu'on sent. Qu'on sent parce qu'elle nous tombe délicatement sur la figure, un peu comme une petite pluie toute fine. Et on la sent parce qu'elle sent. En fait, c'est la lessive qui sent comme ça. Mais il y a des lessives fraîcheurs maintenant. Et je trouve que la neige sent la lessive fraîcheur. Mais vous allez me dire que c'est l'inverse, là. Mais vous comprenez ce que je veux
on
dire.
On est dans la poésie météorologique.
Oh, mais c'est tellement beau, cette poésie, le matin, ensemble.
Alors, vous avez entendu la voix de Francine Forget, la voix de Mathieu Tessier, et c'est Yvan Deslauriers qui est au micro. On a une belle grosse émission aujourd'hui. On garde le suspense pendant encore quelques instants. On commence par vous dire qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine, Francine, c'est à vous.
La première chose, c'est un article dans Nouveau Projet, publié par Atelier 10. C'est Chantal Hébert.
Oh, la Chantal
la
Hébert.
La Chantal Hébert. Quelle femme, hein?
Oui.
Moi, je la trouve extraordinaire.
Oui.
Et c'est un peu sur ses valeurs, sur ses principes. Ne pas suivre la meute. Depuis plusieurs années, en fait, elle est analyste politique et depuis plusieurs décennies, comme on le dit, parce qu'elle est née en 1954.
Mon Dieu,
ça fait un certain nombre d'années.
C'est notre contemporaine à nous deux?
C'est notre contemporaine. Non, c'est pas ma contemporaine, mais c'est pas grave. On est pas mal du même âge, on est dans le même groupe. Ouais. Disons qu'on est dans le même groupe d'âge.
Vous êtes dans la même décennie, ça, je suis sûr.
La même décennie, voilà. Et c'est vraiment intéressant parce que, justement, elle a ses grands principes de neutralité, pourquoi les choses se passent. Elle aime dire pourquoi les choses se passent et non pas dire aux gens quoi penser. Et on voit très bien qu'elle a tenu cette ligne malgré les nombreux commentateurs qu'on a maintenant. En fait, tout le monde est davantage dans l'opinion que dans le fait. Et elle maintient cette valeur de la neutralité.
Elle a un disque dur, elle a une mémoire assez phénoménale aussi. Elle peut nous dire, oui, en telle année... Elle peut faire les liens.
Elle fait les liens, effectivement.
Parce qu'elle connaît l'histoire des choses.
Elle a intégré cela et on voit que c'est important pour elle. D'ailleurs, elle n'a pas hésité au début de sa carrière, pendant un certain temps, à se lever à 4 heures du matin. Et puis, c'est pour ça que quand on l'entend à Patrick Masbourian vers 7h15, là... j'imagine qu'elle a fait la grasse matinée à ce moment-là, parce qu'on parle justement qu'elle a été rédactrice de nouvelles à la radio. Mm-hmm. Et il y a peu de femmes qui font du journalisme politique. Elle a imposé son chemin et on dit qu'elle a trop lu de Tintin et passé de Comtesse de Ségur. Je trouve que c'est bien dit.
C'est pas un défaut.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un joli clin d'œil. Mm-hmm. Une autre femme dont on a moins parlé ici, mais quand même, Jacinda Ardern, une femme de tête et de cœur. C'est José Legault qui en parle ce matin dans sa chronique du Journal de Montréal, mais on en a entendu parler cette semaine. Elle est toujours première ministre travailliste de la Nouvelle-Zélande depuis 5 ans.
Pour quelques semaines encore.
Et elle va démissionner bientôt, le 7 février. Elle va quitter son poste à 42 ans. Et elle dit qu'elle a tout donné. Et elle a un certain épuisement.
Oui.
Ce que Mme Legault dit dans sa chronique, c'est que comme première ministre et comme être humain aussi, elle est à bout. comme on dit en bon français, c'est exactement les mots de José Legault. Puis elle a besoin de repos, puis elle veut renouer avec la lumière, puis elle dit « c'est ce que je lui souhaite ». Cette femme-là, évidemment, elle a eu à gérer la COVID, comme bien des politiciens, mais elle l'a fait de main de maître, hein, parce que c'est un pays où ça a frappé le moins fort. Et aussi, elle a vécu, et ça semble-t-il que c'est vraiment ce qui est venu la chercher, deux attentats meurtriers en 2019 dans deux mosquées de Christchurch. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, un suprématiste blanc qui a abattu et plusieurs personnes. Mm-hmm. Et le bilan, c'est 51 morts et 49 blessés.
Oui, je lisais hier un article à son sujet et elle semblait dire « je connais le travail, je connais cette tâche-là, je sais l'énergie que ça prend pour faire la tâche comme il faut et je n'ai plus cette énergie-là. »
Oui, exactement, exactement. Elle convient qu'elle est humaine, hein, parce que parfois, on a de la misère à penser que les dirigeants le sont.
D'accord.
Et vous, Yvan?
C'est drôle parce que Mme Ardern, elle était première ministre à l'âge de...
Elle quitte à 42 ans. Donc
36, 37 à peu près, quelque chose
du genre. On parle d'un mandat de 5 ans.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est dans la une d'aujourd'hui, je vous scoope une des unes de la presse.
Mais pourquoi pas?
C'est le décès de Mme André Simard. Le lien, évidemment, c'est parce que son mari, Robert Bourassa, a été premier ministre, lui aussi, dans la trentaine, 36, il me semble.
Très jeune. Il est parti, il a eu le temps de revenir.
Oui, oui, lui... Et il a fait un beau retour en passant. Ceci étant dit, on parle du décès de Mme André Simard et c'est un décès qui ne s'est pas fait facilement. Alors, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai eu des proches qui sont partis dans les dernières années avec des soins palliatifs dans la bonne façon de faire les choses et je lisais que Mme Simard n'a pas pu avoir ce type de soins-là. Ça m'a beaucoup... C'était un drôle de façon de commencer le matin, là, mais ça m'a beaucoup touché. Alors, voilà, c'est quelque chose à lire ce matin.
Je m'excuse, mais c'est intéressant quand même qu'ils acceptent de mettre ça sur la place publique et non pas pour avoir réparation,
non.
Mais pour la suite.
Oui, tout à fait.
Un très beau geste de la famille.
Et la fille de Mme Simard, Michelle, me semble, disait que... je pense que son père n'aurait pas aimé que le système de santé...
Qu'il a créé, l'assurance maladie.
Fasse, crée des situations comme celle-là. Dernier petit point rapide, Félix Auger-Aliassime qui a gagné cette nuit à l'Open de l'Australie. Il s'en va en ronde la troisième ronde, je pense que c'est la ronde des 32. Alors, juste pour vous rappeler, l'année dernière, il s'est rendu jusqu'en quart de finale. Je vous laisse là-dessus.
Alors, notre Félix, on le suit toujours.
On le suit constamment. Notre émission d'aujourd'hui, Francine, c'est une belle émission.
Une émission où il y a énormément de contenu, mais quand même, on aura le ton de l'humour, comme à l'habitude.
Bien sûr, c'est vendredi.
Chronique histoire. Alors, on va se retrouver avec un chevalier. Moi, je pensais que les chevaliers, c'était au moment du Moyen-Âge, mais c'est un chevalier du 18e siècle. Alors, Marcel Dugas va nous en parler. Techno, beaucoup, beaucoup de nouvelles. Un petit bilan 2022 et ce qui nous attend en 2023. Nous aurons, en fin d'émission, Jean-Marie Lapointe.
Oui.
Oui, pour une nouvelle... Le Jean-Marie Lapointe pour une nouvelle émission qui commence dès aujourd'hui sur Canal M.
Exact.
Et vous avez deux invités.
Deux invités. Je parle avec Olivier Desloges, qui est malvoyant. Lui, il voit un peu, mais pas tant que ça. Là, je vais me faire reprocher mon français. Et lui, il est membre de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Il a fait le duathlon au mois de septembre dernier, mais il a un objectif vraiment intéressant, il a un rêve, c'est de participer au triathlon paralympique de Paris. Ou, s'il n'est pas capable, celui de Los Angeles. Alors, on va parler de ça. Et on va parler aussi avec Vanessa Anne Paré de Moi, l'épinière et mobilité Québec. Eux autres, ils font quelque chose, ils ont fait hier soir quelque chose qui se fait à Québec. C'est les Jeux de Redi. Alors, elle va nous parler de cette nouvelle activité-là lors de notre conversation. Alors, c'est l'émission d'aujourd'hui et on commence évidemment par un duo.
1, 2, 3, 4. puisqu'on ne vivra jamais tous les deux. Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la mort a le pardon pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté. Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves. Tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum de regret. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Tiens donc, un duo, Marie-Pierre Arthur, Ian Kelly qui chantait l'encre de tes yeux.
Et il semble qu'on aurait eu un mini problème technique. Alors, Francine, dites bonjour à tout le monde parce qu'on ne l'a pas entendu, semble-t-il.
Bonjour tout le monde. Je suis désolée que notre metteur en onde m'ait censuré, mais je vous avais simplement dit, chers auditeurs, que je vous aime beaucoup et je vous souhaitais un beau vendredi.
Oui, c'est, je pense que c'est ça que vous aviez dit.
Ben, c'est ça que je voulais dire.
D'accord. Il n'y a que le bonjour qu'on n'avait pas entendu.
Oui, c'est ça. Tout le reste, on le savait, voyons. Alors, les unes de Montréal, s'il vous plaît.
Les unes de Montréal.
Vous avez, qu'on vous entend.
Vous avez parlé, évidemment, de la mort d'André Simard. Ça occupe un espace vraiment important dans le premier écran de la Presse Plus. Je vais attirer votre attention sur un autre sujet qui m'est bien cher. C'est le cinéma québécois. Alors, en une de la presse, toujours, le cinéma québécois qui se cherche. Cinéma québécois, évidemment, tout le monde, je dirais, est assez d'accord qu'on fait des bons films, mais les...
On ne va pas les voir.
Exactement, nous ne sommes pas au rendez-vous. On parle de films qui auraient dû avoir des auditoires importants et qui n'en ont pas eu, comme je pense, entre autres, à Chien blanc, d'Anaïs Barbeau-Lavalette.
Et pourtant, je l'ai vu,
c'est bien. Par contre, évidemment, il y a eu quand même quelques succès. Là, 23 décembre, qui continue sa route.
Oui, même, ou encore, même dans les Europes.
Exactement, oui. Vous m'arrachez les mots de la bouche. Oui, ils sont rendus en Europe. Alors, c'est très bien. Et ça a été très, très bien reçu, ce qu'on en a lu ce matin. Et aussi, il y a le film Confession, mais au-delà de Luc Picard. Mais au-delà de ça, il y a eu d'excellents films cette année. Moi, je suis allée beaucoup au cinéma québécois. Mm-hmm. Et malheureusement, il va falloir opérer un redressement. Alors, on cherche des solutions. On apprend dans ce reportage qu'il y a, en tout cas, on pense à différentes choses, qu'il faut entre autres conquérir les jeunes, être plus présent sur les plateformes. Mm-hmm. Et bonifier peut-être les scénarios. On met un gros point d'interrogation, mais moi, je ne crois plus à ça parce que les scénarios sont solides.
Oui. D'ailleurs, dans deux semaines, il me semble, je vais voir chez Jean Duceppe Gaspard Blues.
Qui était un très grand film québécois.
En fait, le problème, c'est qu'on est capable de les nommer, les grands films québécois qu'on a vus dans le passé. Mais les petits films qu'on... Le 23 décembre, par exemple, c'est pas un grand film. Je suis allé le voir, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais je sais pas si dans 20 ans, je vais dire « Ah oui, 23 décembre, je l'ai vu. » Comme je viens de faire pour Gaspard Blues, par exemple.
Non, c'est pas la même chose. Mmh. Mais il en prend des deux.
Oui, exactement, c'est ça.
Ce qui serait bien, c'est qu'on aille voir aussi la première catégorie et pas juste la deuxième catégorie, parce qu'on le fait pour d'autres types de cinéma qui nous viennent d'ailleurs.
Mais il y a eu des films, je pense à La déesse des mouches à feu, c'est entre les deux, je dirais. Puis c'est vrai qu'il y a eu la pandémie, là, mais ça a comme passé dans les craques du plancher.
Ben, Ligne de fuite. Ligne de fuite aurait dû être un succès. On annonçait ça comme le déclin de l'Empire américain de la nouvelle génération. On a peut-être exagéré, mais il reste que ça n'a pas été au rendez-vous. Alors, je change complètement de sujet. Je m'en vais du côté des déchets dans Le Devoir. L'enquête du Devoir porte sur une entreprise qui cumule les déchets et les sursis. 3R Valorisation bénéficie d'un délai de Québec alors que les centres de tri doivent plus d'un demi-million au fisc québécois et canadien et comptent plusieurs manquements aux normes. Cette enquête d'Ulysse Bergeron et de Marie-Ève Cousineau nous montre aussi que cette compagnie envisage de vendre ses actifs, qu'elle collectionne les factures impayées et qu'à propos de cette dette d'un demi-million, Revenu Québec a pris une hypothèque légale de 500 000 $. Alors, cette entreprise bénéficie de beaucoup de compréhension de la part du ministre de l'Environnement à constater Le Devoir. En fait, c'est que, par exemple, sur l'accumulation des déchets qui ne devraient pas dépasser la limite de 5 mètres, mais semble-t-il qu'on en accumule beaucoup plus que ça et que les camions continuent à circuler. 6 inspections ont révélé des manquements aux normes environnementales québécoises. C'est pas jojo, alors on espère qu'on va trouver une solution, mais il faut dire que la question des déchets...
C'est pas simple,
en effet. Toujours dans Le Devoir, je vais vous parler brièvement de la caricature parce qu'elle porte sur un sujet qui a été beaucoup, beaucoup discuté cette semaine. C'est la question de la consommation d'alcool. Après qu'on ait appris qu'à peu près tous, on consommait trop d'alcool, en tout cas moi, dans mon environnement, et pourtant, on ne consomme pas tant que ça. Godin, dans Le Devoir, nous présente deux personnages et ils sont prêts à boire, n'est-ce pas? Ils sont prêts à saluer. Okay. Et là, il y en a un qui dit « cancer » et l'autre dit « c'est pas santé qu'il faut dire » et de répondre le premier « plus maintenant ». Je pense pas qu'on va aller jusque-là.
Des fois, vraiment, une image vaut plusieurs mots. Hein?
Oui. Journal de Montréal maintenant. On parlait de sursis pour l'entreprise de déchets, qui gère les déchets, mais Piquet-Souban a aussi imposé une espèce de sursis. On se rappellera que Piquet-Souban s'est engagé à donner 10 millions de dollars à la Fondation de l'Hôpital de Montréal. Et semble-t-il qu'il est très loin des 10 millions promis. C'est la manchette du Journal de Montréal. Bon, alors donc, il a été questionné, il a fini par avouer qu'il n'était pas parvenu à remplir cet engagement, il ne renonce pas à cet engagement. Mm-hmm. L'enquête de François-David Rouleau et Jean-Louis Fortin est très claire là-dessus, mais cependant, l'enquête dévoile aussi que sur la somme qui serait amassée, parce qu'on reproche dans cette enquête le manque de transparence à la fois de Piquet-Souban et de l'Hôpital de Montréal pour enfants, qu'on aurait, en tout cas, amassé à la suite de cette grande annonce pour 6 300 000 $. Et bon, on est loin du 10 millions, mais quand même, on est sur la bonne voie, effectivement. Et ce qu'on ne sait pas et qui semble tracasser les auteurs de l'enquête, c'est combien Piquet-Souban a réellement versé.
D'accord.
Cette question-là, elle n'est pas répondue. Alors, comme je le disais, il explique cet écart, puis Piquet-Souban, il ne s'est pas défilé. Puis il dit qu'il est prêt à continuer, qu'il a promis quelque chose, il va le faire. Pour le moment, ce n'est malheureusement pas le cas. Et c'est un dossier très fouillé et on a demandé à plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine du marketing qu'est-ce qu'ils pensaient de l'état de situation. Et la plupart disent qu'au moment de l'annonce, c'est peut-être pas la manière dont on aurait dû le faire. Alors voilà pour les manchettes.
On s'en va du côté de l'Estrie, du côté de Monique Kerouac. Bonjour Monique.
Bonjour Yvan, bonjour Francine.
Bonjour Monique.
Et avant de commencer, dites-nous la température.
Ah, c'est tout beau. Il y a de petits flocons là qui tombent tout doucement.
Vous
c'est
continuez
très,
dans
très
la poésie de Francine de tantôt.
Monique, est-ce que vous la sentez, la neige, vous, quand c'est des doux flocons comme ça?
Oui, je la sens.
Bon, merci un peu de solidarité parce qu'on rit de moi ici.
Ah non, non, écoutez...
Merci, Monique.
Ils ont l'air de taille inégale en plus, alors ceux qui sont plus gros sont certainement plus doux, Francine.
Merci, Monique.
Bon, est-ce qu'on pourrait revenir à la couverture
oui,
des urnes,
alors une nouvelle sympathique, Yvan.
Allez-y.
La commission de toponymie du Québec a craqué pour le nom d'un parc de la municipalité d'Isman, où je réside, en Estrie. Comment s'appelle ce parc? Eh bien, le parc du temps qui passe. Il se trouve au 13 de la rue des Pins, au centre du village. Il s'agit d'un lieu de détente pour les résidents. Ici et là sont exposées diverses œuvres d'art d'artistes locaux. Et puis, durant la période estivale, il y a même des concerts qui sont organisés. Rappelons que cette commission de toponymie a été créée en 1912 et qu'elle procède à l'inventaire et à la conservation des noms des lieux. Et elle les officialise et les diffuse, bien sûr, et donne aussi son avis au gouvernement sur toutes les questions touchant la toponymie. En 2022, la commission a officialisé plus de 1300 noms de lieux. Si vous voulez voter pour le toponyme coup de foudre du public de l'année 2023, on se rend sur l'adresse, là c'est un peu compliqué, toponomie.gouv.qc.ca/vote/toponyme/ Voilà. Peut-être si vous faites toponomie, gouvernement, ça va donner la bonne adresse.
Votre chronique est terminée, ça va. Non, continuez.
Je vous dis aussi que la croissance démographique en Estrie a été en 2022 l'une des plus fortes au Québec, considérant les plus récentes données démographiques publiées ce mois-ci par l'Institut de la statistique du Québec. Eh bien, la région a désormais passé le cap des 500 000 habitants. Entre autres, grâce à l'ajout sur son territoire des populations des MRC de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, qui faisaient antérieurement partie, je pense, de la Montérégie.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, comme les deux dernières années, eh bien, l'Estrie se compare sur le plan démographique de façon très favorable aux 16 autres régions administratives du Québec. Sa population augmente proportionnellement plus qu'ailleurs, faisant jeu égal avec les Laurentides et n'étant précédée que par Lanaudière.
Et puis maintenant, vous avez une réputation de lieu extrêmement prisé.
Ah, exactement. Oui, c'est à cause de moi, c'est sûr.
En plus, vous êtes là.
La fée de l'Estrie. Alors maintenant, on passe à Magog. Et bien là, il y a un peu d'opposition parce que, en effet, des citoyens s'opposent au projet de sauna flottant au quai McPherson et ça ne s'essouffle pas, semble-t-il, bien au contraire. Il y a une mobilisation, en fait, assez significative puisqu'une pétition de quelques 1100 signataires demande aux élus de ne pas autoriser la mise en place d'un sauna flottant à l'envoi, à l'endroit décrété et on revendique en fait la suspension de ce projet. Parmi les préoccupations, il y a question de protéger la frayère à poissons, de préserver l'inviolabilité du territoire. Puis voilà, donc c'est pas très positif, mais le problème c'est que cette pétition est arrivée un peu tardivement. Même la conseillère Nathalie Laporte, qui a voté contre le projet, a reproché aux signataires de la pétition de ne pas s'être exprimé plus tôt dans le processus. Il y a eu quand même un sondage en novembre dernier qui concluait que 64 % des 966 répondants étaient en accord ou entièrement en accord avec le projet de Sona, et 54 % étaient en accord ou entièrement en accord avec l'emplacement du Quai Mefferson. Donc, le projet doit revenir devant les élus en février. On verra bien ce qui se passera. Et je terminerai en vous demandant, connaissez-vous la chienne Queenie? Eh bien, on la félicite, Yvan, pour sa portée de 16 mignons chiots. Et non, elle ne déclenchera pas une suite au 101 Dalmatiens, film qui a été, bien sûr, subventionné par Disney. Mais on la félicite tout de même. Bien. Alors voilà, c'était les nouvelles de l'Estrie.
Merci beaucoup, Monique, et bonne journée dans la neige poétique.
Ah oui, j'y vais dans les quelques minutes qui suivent.
D'accord.
Alors, bonne semaine.
Merci. Du côté du droit à Ottawa, Francine, est-ce que vous saviez, vous, que la rue Wellington, vous savez où il y a eu les manifestations l'année dernière avec les camions et tout, que la rue Wellington était toujours fermée depuis cette époque?
Est-ce qu'elle est devenue piétonne ou parce qu'elle est fermée, parce qu'on n'a pas osé?
Je pense qu'on n'a pas osé la rouvrir. Alors, le maire d'Ottawa, maintenant, penche pour la réouverture de la rue Wellington à la circulation automobile à court terme, en attendant que les gouvernements statuent sur son sort à long terme. Le gouvernement de Justin Trudeau semble plutôt préférer maintenir le statu quo. Et il nous dit quelque chose d'intéressant. Si la rue Wellington est fermée et qu'une manifestation force la fermeture de la rue Queen. La rue Queen, c'est une rue qui est parallèle à la rue Wellington. Va-t-on fermer la rue Queen de manière permanente? Même chose pour une autre rue importante, la rue Slater. Ce n'est pas l'approche que je veux prendre, c'est une approche très défensive. Si on ferme la rue Wellington à long terme, je veux que ça fasse partie d'un projet passionnant dans lequel les résidents d'Ottawa auront leur mot à dire au lieu que ce soit un geste défensif pour un événement qui s'est déroulé en 2022. Alors, c'est un débat qui court dans ce coin-là. Du côté de Québec, dans Le Soleil, il y a un article qui m'a intéressé, c'est « Feu nourri des anti-tramways ». Sous la plume de Thomas Laberge, les opposants au tramway sont galvanisés alors que le dernier sondage somme Le Soleil traduit d'un effritement des appuis pour le projet devant des dépassements de coûts anticipés. Ses partisans, quant à eux, restent muets. Et Éric Duhaime nous dit « Ça fait des mois que le maire Bruno Marchand dit qu'il va faire une campagne de marketing pour faire monter l'acceptabilité sociale et ça n'augmente pas pantoute. » Nous dit le chef conservateur.
Pantoute?
Éric Duhaime. Ben, c'est ça qui est écrit, je cite. Alors, un autre projet qui vivote. On prend une petite pause et au retour, on va parler avec Olivier Desloges de son rêve de participer aux prochains Jeux paralympiques. Alors, on se parle dans quelques instants.
Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
J'ai quitté mes amours, j'ai quitté mes amis, sans nous désunir. J'ai quitté mon parcours, j'ai quitté aujourd'hui, je deviens souvenir. Je redeviens le vent. Je fais voler l'oiseau, je fais chanter l'océan. Invisible à nouveau, j'habiterai le printemps. Dorénavant, j'ai quitté mon labour, ma peau, mon sang, je redeviens le vent. Tel un premier désir,
et le soleil levant. Pour toi éperdument, ce ne fut qu'un court instant. Je redeviens le vent.
Alors, on est de retour. Et notre premier invité de cette section-ci, Francine, c'est un monsieur qui s'appelle Olivier Desloges, qui est membre de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Est-ce que tu as eu la chance d'aller marcher sous les flocons, sous les doux flocons de ce matin?
Oui, ben, je suis allé marcher, je reviens, ça fait pas longtemps que je suis revenu, fait que... Bien.
D'accord. On s'est entendu cette semaine que, Olivier, tu trouves que si je te vois, ça te vieillit beaucoup.
Alors, oui.
Alors, on va se tutoyer. On va faire une entorse à notre façon de fonctionner. Oui, Francine?
Oui, bonjour, Olivier. C'est Francine Forget. Ça vieillit de combien d'années quand on vous voit au lieu de tutoyer?
Ben je sais pas, quand on vous voit d'habitude, on me dit ça pour les personnes âgées. Fait que quand on me dit vous, pour moi, ça me vieillit, c'est.
OK, OK, il faut. OK, il faut être une personne âgée. Donc, je veux juste savoir.
Dans le cas d'Olivier, il y a une grosse partie de la population qui est une qui sont âgées. Je sais ça. Je vous dirai pas son âge, mais je le sais. Alors, Olivier, depuis quand est-ce que tu participes aux activités sportives de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain?
Ah ben j'ai recommencé, ça fait depuis deux ans que j'ai recommencé avec eux autres, mais sinon, il y a depuis à peu près quatre ans avant ça, j'ai fait une année ou deux, j'ai fait du tandem avec eux autres.
Ah oui? Et j'ai entendu dire que j'ai des connexions dans ce domaine-là, que on t'a eu la permission de ne pas faire de tandem.
Oui, ben moi je vois assez bien pour faire du vélo tout seul, tout dépendant de la piste. Je suis capable de faire du vélo tout seul, même si j'ai une difficulté visuelle. Mm-hmm. C'est juste les angles, les couleurs. Des fois, je ralentis dans des coins que je connais pas super. Je ralentis, je m'envoie à 20, 22, 23 km à l'heure. C'est une promenade de santé. Là.
Ça, si tu ralentis à 22, 20... OK, moi, je sais, je fais du vélo de longue distance et j'essaie de maintenir une moyenne de 28 kilomètres à l'heure sur des distances d'environ 100-120 kilomètres. Mais ouais, tu m'as dit cette semaine que quand tu connaissais la route, tu roulais à quelle vitesse?
Je pouvais atteindre je roule en moyenne à peu près les 30-35 kilomètres à l'heure pendant à peu près 40 kilomètres.
Oui.
C'est juste la piste du train du Nord, je la connais par cœur, les recoins... tous je les connais, les stops, là. Fait que j'ai des points de repère, puis je me permets de rouler plus vite parce que je connais la piste par cœur. Mais sinon, quand je m'en vais me promener un peu partout, au Québec, du train du Nord, même je suis allé jusqu'à Québec cet été, puis je roulais une petite vitesse de même. Puis,
C'est vraiment bon. Maintenant, donc tu fais du vélo, ouais. Tu fais de la course parce que tu as fait le duathlon au mois de septembre. Comment ça s'est passé, le duathlon?
Oh, pour moi, ça s'est bien passé, même ça s'est trop vite, trop bien passé, puis un peu trop vite. Je m'attendais pas à faire un résultat de même au début.
C'était quoi ton résultat?
J'ai fait en 1h09.
Ouais.
Le duathlon, le 5 km course, 20 vélos et 2.5 pour terminer en course à pied.
Donc, 1h09 pour faire ces trois activités-là?
Oui. C'était dur. Pour moi, c'était vraiment la course à pied. Le vélo, ça s'est...
Ça s'est très bien passé.
Ça, comme sur des roulettes. Là, c'est...
Comme sur des roulettes.
Comme si rien n'était, même si on n'est pas roues. En course. Là. Aussi, oh oui.
Francine, vous
Olivier,
avez une question?
Juste pour comprendre, bien comprendre ta performance, si ça avait été moyen ou plus ou moins bon, combien de temps t'aurais dû y mettre?
Je sais pas, ça s'est bien passé, donc...
Non, mais je veux dire, avec d'autres, il y en a d'autres, là, quand tu te compares, tu fais pas ça
oui.
tout seul. Les autres, les moins bons, combien ils ont fait?
Je n'ai pas regardé les résultats, mais ça pouvait tourner entre 1h15, 1h20, 1h25, dans okay. ce coin-là. Pas juste les autres équipes tandem, mais toutes les autres coureurs.
Ouais, ouais.
C'est arrivé en vague dans ces coins-là, là.
Puis, est-ce que c'est à ce moment-là que ton rêve de faire le triathlon des prochains Paralympiques est né, ou tu l'avais déjà, ce rêve-là, auparavant?
Moi, c'est vraiment depuis que je suis petit, mon rêve principal, c'est vraiment d'aller aux Jeux Olympiques, peu importe la discipline au début. Mais là, j'avais lâché prise parce que, rendu à mon âge, d'habitude, ceux qui atteignent ce plateau-là, c'est déjà des élites. Mais
oui.
Là, je viens de me qualifier pour le duathlon, je m'ai qualifié pour les championnats du monde l'année prochaine. Donc, mon rêve est revenu. Je dis, il est pas trop tard.
Mm-hmm.
Pas trop tard. Fait que je mets le paquet, puis il reste un année et demi avant les paris pour que j'aille une mince chance. Sinon, ça va aller à Los Angeles en 2028.
Mm-hmm. Est-ce qu'on t'a déjà approché pour... deux questions, je vais recommencer. La première question, tu parles des championnats du monde qui s'en viennent. Ça va être à quel endroit?
Ça va être en Espagne, à Ibiza.
OK. Et tu participerais alors comme représentant de l'équipe canadienne?
Oui, de l'équipe paracanadienne.
Mm-hmm. Donc, il y a des représentants de l'équipe canadienne qui t'ont approché, alors?
Oui, c'est ça. Bien, après la course, il y avait la présidente de Triathlon Québec et de Triathlon Canada qui sont venus me voir, qui sont venus me parler, puis qui me disaient qu'elle me recruter.
Mm-hmm.
Pour pas juste l'année prochaine, mais pour les autres compétitions. Comme une sorte de relève parce que j'étais jeune, puis j'ai encore beaucoup à donner. Là.
Oui, 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 bien sûr.
Comme la relève de l'équipe, là, le petit jeune.
Là, à un moment donné, il va falloir qu'on te demande ton âge parce qu'on n'arrête pas de jouer autour des âges.
J'ai 21 ans.
21 ans, hein? C'est vraiment tout,
que
tout jeune.
Que c'est vieux! Je vais vous vouvoyer, Olivier.
Tu viens d'ouvrir une porte, là. Donc tu fais partie tranquillement de l'équipe canadienne. Est-ce qu'il y a des camps d'entraînement qui se profilent pour bientôt? Et puis, est-ce que c'est à Montréal ou c'est ailleurs au Canada?
Les camps d'entraînement, pour le moment, j'en ai pas en vue.
Mm-hmm.
Quand je vais rencontrer, je vais rappeler la responsable pour ça. Qui pouvait m'aider pour essayer de me diriger un petit peu plus vers les camps d'entraînement, plus la haute performance, les bons contacts pour les entraîneurs pour l'équipe. Là.
Oui, oui, oui.
Cet été, ça va tout se jouer là-dedans pour que j'aie une même chance pour aller à Paris. Là.
Oui, 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 bien sûr.
Tu vas jouer cet été. Là.
Et je vais garder tes coordonnées, d'ailleurs, on va suivre ça. C'est quoi ta journée type présentement? J'imagine que tu nous as parlé de vélo, tu nous as parlé de course. Est-ce que tu peux nous parler de la natation à ce moment-là? Parce que tu vises le triathlon.
Oui, ben en ce moment, je suis au triathlon de Laval. Je fais les entraînements là-bas.
Oui.
Il y a la natation 4 fois semaine, 4-5 fois semaine.
Mm-hmm.
Il y a de la course une fois semaine, puis il y a de la course en fait de mon bord. J'ai 3 fois semaine le matin aussi, j'essaie d'aller m'entraîner plus au gym, la muscu. Puis, c'est au moins 7, 8, 9, 10 fois par semaine minimum, là.
Et tu me parlais que j'ai vu que tu es en tout début de processus avec l'équipe canadienne. Tu reçois peut-être pas le financement qui est, qui est donné aux athlètes de pointe. Puis tu me parlais de façon de ramasser de l'argent.
Oui, en fait, j'ai déjà fait une levée de fonds à un show à m'amener. J'ai aussi ouvert un compte GoFundMe pour essayer de ramasser des fonds des personnes qui aimeraient donner. Mm-hmm. Là, je travaille sur un projet pour essayer d'aller chercher des commentaires officiels pour le futur aussi.
Oui, oui, oui.
C'est mon travail. En tout cas, là, j'ai beaucoup à faire.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais normalement à part ça, mais tu as vraiment tout un programme à accomplir en termes d'entraînement et de financement présentement. Alors, Olivier, en terminant, on surveille ton nom pour quelle prochaine compétition?
Le championnat du monde de paratriathlon. Ben, de triathlon, là, à oui. Épisode, c'est ma prochaine compétition. Sinon, l'été prochain, je vais être à peu près dans... J'ai essayé de faire à peu près toutes les compétitions au Québec.
Au Québec, bien sûr.
Il y en a 7, 8, 9 à peu près. Sinon, si je peux essayer d'en en faire une, je sais qu'il y en a souvent aux États-Unis. Donc je peux aller en faire une là-bas pour essayer de me démarquer ailleurs aussi. Okay. Quelque part d'autre au Canada. Mais sinon, je vise le... les triathlons du Québec pour le moment. Là.
Parfait. Alors, mes amis, Francine et Mathieu, on note ce nom-là, c'est Olivier Desloges. On va te suivre, mon cher Olivier, et on va te rappeler, c'est sûr, pour connaître ton parcours. Alors, on te souhaite bonne chance dans la réalisation de ton rêve, que ce soit pour Paris et ou Los Angeles, et au plaisir de se reparler.
J'espère.
À la prochaine.
À la prochaine, allez. Merci. To decide, you know I go back there tomorrow, but for the work I've taken on, stoking the star maker machinery behind the popular song.
Johnny Mitchell, Freeman in Paris.
Freeman in Paris. Allez-y donc, Francine.
Mais justement, on s'en va à Paris. Pas pour voir le lendemain des manifestations monstres qu'il y a eu hier. Puisque Marcel Dugas, bonjour Marcel.
Bonjour.
Va nous amener plutôt à la fin du 18e siècle avec un personnage assez intriguant qui s'appelle Chevalier de Saint-Georges.
Oui, c'est un personnage fort singulier, mais à propos de qui il est très difficile d'avoir des informations claires et sur lequel tout le monde est d'accord. Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, serait né en Guadeloupe en 1739 ou en 1745, mais les informations à propos de son enfance sont très fragmentaires. En fait, même décider comment on devrait l'appeler, c'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'il est né esclave. Sa mère était une esclave afrodescendante qui s'est fait appeler Anne d'Anneveau après s'être installée en France, et son père était un grand propriétaire terrien blanc d'origine française. Il possédait des plantations de canne à sucre et de café à la Guadeloupe et près de 300 esclaves. Joseph est donc le fruit d'un viol. Quand une femme appartient à un homme, il n'y a pas de notion de consentement qui peut s'appliquer. Tout ça pour dire que Joseph n'a pas de nom de famille à la naissance. On l'appelle Bologne de Bologne, parfois Boulogne, mais le plus souvent, on l'appelle Monsieur de Saint-Georges ou le Chevalier de Saint-Georges. C'est le nom que porte la rue parisienne qui rappelle sa mémoire.
Par ironie, Marcel, ou...
Non, c'est pas... plus tard dans sa vie, il est effectivement devenu chevalier de Saint-Georges dans des circonstances que j'ai eu beaucoup de difficultés à élucider, je dois vous dire, là. Mais il fonctionnait pendant sa vie adulte, le plus souvent sous Monsieur de Saint-Georges. Et donc, des propriétaires qui faisaient des enfants à leurs esclaves, c'était pas rare, mais Joseph de Saint-Georges aura la chance de voir son père se préoccuper de son sort. Il envoie Joseph et sa mère en France, ce qui fait d'eux des gens libres. Même si vous étiez esclave dans les colonies, comme l'esclavage avait été aboli en France métropolitaine, dès que vous mettiez le pied dans le pays, vous étiez affranchi d'office. De plus, on confie Joseph à Nicolas Texier de la Boétière, un des maîtres d'armes les plus fameux de l'époque. Avec de la Boétière, Joseph va recevoir une éducation aristocratique et va apprendre à manier l'épée au point de devenir un des plus brillants escrimeurs de son temps. Et aujourd'hui, être un maître de l'escrime, ça ne vous vaut pas nécessairement une grande renommée. C'est un sport qui se pratique plutôt dans l'anonymat. Mais à l'époque, les grands escrimeurs étaient des stars. À 15 ans, il battait les plus forts tireurs. À 17, il avait acquis une prestesse de mouvement qui déconcertait les plus grands maîtres. Mais Saint-Georges n'est pas doué que pour l'escrime. Jamais personne n'a déployé plus de grâce sous les armes et il n'excellait pas moins dans tous les autres exercices du corps. Personne ne pouvait l'atteindre à la course. Il dansait avec un agrément merveilleux. Montait à cru les chevaux les plus difficiles et les domptait. Il se distinguait parmi les meilleurs nageurs de son temps et l'hiver, quand la glace fermait les rivières, c'était un passe-temps pour la haute société que d'aller voir patiner Saint-Georges tant il avait perfectionné un art aussi frivole. Bref, il est bon dans tout, et pas seulement pour ce qui est physique, il va également devenir un musicien de renom. C'est un virtuose du violon, il est premier violon dans un orchestre dès la jeune vingtaine. Il sera aussi un chef d'orchestre réputé. Il dirige un ensemble qui est considéré par une publication de l'époque comme un, sinon le meilleur de toute l'Europe. On l'invite à la cour du roi d'Angleterre, il est un ami personnel du prince de Galles, le futur roi George IV. Il se produit dans des cours princières jusqu'en Hongrie. On le retrouve à Versailles et certains de ses biographes racontent qu'il aurait été le professeur de musique et potentiellement l'amant de la reine Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, guillotinée pendant la Révolution française. C'est difficile de dire ce qui est vrai, ce qui est faux dans tout ça. Pendant sa vie, le fait qu'il provenait en partie d'une très bonne famille, que son père était très riche, ajouté à ses talents naturels et à l'effort qu'il a mis à développer tous ses talents, on réussit à limiter l'impact qu'a eu sa condition de métis, fils d'esclave, mais il semble peu probable quand même qu'on ait été ouvert d'esprit au point qu'il puisse être un intime de la reine, encore moins un très intime, ce qui ne veut pas dire qu'il n'intéressait pas les dames. On a dit de lui, là, je cite, « Il est en outre un très valeureux champion en amour et recherché de toutes les femmes instruites de son talent merveilleux, malgré la laideur de sa figure. » Ouch! Ceci dit...
Ouch! Mais on, nous, on rit ici. Champion oui, mais... en amour!
Oui, mais malgré la laideur de sa figure, c'est plus ça, moi, qui m'a fait un peu sursauter.
Voilà.
Mais j'ai vu des textes, par contre, qu'il décrivait comme étant un très bel homme. Parfois, on disait qu'il mesurait 1m80, ce qui était très grand pour l'époque, mais j'ai vu 1m67 aussi. C'est très difficile de se faire une idée là-dessus. Si sa place réelle à la cour de France est sujet à débat, on sait qu'il devient presque un membre de la famille du duc d'Orléans, personnage de haute noblesse à l'époque, descendant direct du roi Louis XIII de France, grand-père du futur Louis-Philippe Ier, le dernier roi de l'Hexagone. Son épouse et lui avaient leur propre théâtre. Notre chevalier de Saint-Georges se produit devant tout ce que la France compte de ducs, de duchesses, de comtesses, de marquis, et je ne sais trop. Il va réussir à se tailler une place enviable dans le Paris de la deuxième moitié du 18e siècle, en dépit de ses origines, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a jamais vécu d'épisode de discrimination. Il avait été pressenti pour diriger l'Académie royale de musique, le précurseur de l'actuel Opéra de Paris. Trois des vedettes de l'Académie ont protesté en haut lieu, disant que leur honneur et leurs privilèges ne leur permettaient pas d'être soumises à la direction d'un mulâtre. La candidature de Saint-Georges n'a pas été retenue. Il a toutefois, en plus de diriger d'autres sociétés orchestrales, composé de nombreuses œuvres, des sonates, des concertos, des symphonies, surtout pour le violon, son instrument de prédilection. Il a aussi composé des opéras comiques, des opérettes, mais ses œuvres opératiques n'ont pas toujours été très bien reçues. Je vous lis une critique qu'on a faite d'Ernestine, opéra comique dont il signait la musique qui a été présentée à Paris en 1777. On ne pouvait guère choisir un sujet plus agréable, on ne pouvait guère le défigurer d'une manière plus maussade. Messieurs de Laclos et Desfontaines, les librettistes, ont ajouté un rôle de valet qui est le chef-d'œuvre de la platitude et du mauvais goût. La composition de M. de Saint-Georges, quoique ingénieuse et savante, a paru manquer souvent d'effet. On a trouvé de la grâce, de la finesse, mais peu de caractère, peu de variété, peu d'idées nouvelles. L'opéra en question a été perdu. Une seule de ses œuvres opératiques a survécu jusqu'à nos jours. Mais là, je ne vous ai parlé que de sa carrière sportive, de sa carrière musicale. On n'a pas encore abordé la question du chevalier de Saint-Georges, le militaire. Il débute très jeune dans une unité qui s'appelait les gendarmes de la garde du roi. C'était réservé aux gens de bien. Comme disait Henri Guillemin, il fallait avoir une certaine situation pour faire partie de ça. C'est une unité qui était rattachée à la maison royale. C'était pas la garde rapprochée du monarque, malgré ce qu'on pourrait penser. Mais le gros de sa carrière militaire va se faire pendant la Révolution française. Il va d'abord être capitaine dans un régiment de la garde nationale, qui était une milice créée en 1789 pour servir de force de police dans le Paris de la Révolution, qui s'est étendue à d'autres villes par la suite. Et en 1792, Saint-Georges participe à la création d'un régiment qu'on a d'abord appelé la Légion franche des Américains, pas au sens d'Américains des États-Unis, au sens de Français originaires des colonies d'Amérique. Il est nommé colonel du régiment, on l'appelait souvent la Légion Saint-Georges d'ailleurs, il est le premier colonel afro-descendant de l'armée française, mais malgré ses états de service pour la Révolution, il sera accusé de sympathie royaliste et emprisonné pendant près d'un an. Après sa libération, l'armée refuse de le réintégrer, il va consacrer les dernières années de sa vie à la musique et il décède en 1799, il était donc encore très jeune, la mi-cinquantaine ou le début de la soixantaine, dépendant quelle était sa véritable date de naissance. Et sa musique va globalement tomber dans l'oubli. On a dit que c'est parce qu'il était noir qu'on a arrêté de jouer ses œuvres. Il se peut que sa musique était tout simplement passée de mode. Un phénomène peut avoir plusieurs différentes causes. Mais il semble bel et bien avoir été ramené au goût du jour. J'ai sondé l'Internet rapidement ces derniers jours et on peut voir que de nombreux orchestres aux États-Unis tout particulièrement, ont mis sa musique au programme ces dernières années. Et il va connaître la consécration en avril prochain, alors qu'Hollywood lancera Chevalier, un film racontant sa vie. Francine, je vais terminer là-dessus. Racontant sa vie, je pense qu'on peut le mettre en guillemets. J'ai vu la bande-annonce de ce que j'ai pu voir. Ça me semble être plutôt une fantaisie sur le thème de Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, qu'un véritable film biographique où on va apprendre comment sa vie s'est passée réellement. Mais on peut donner la chance au coureur, n'est-ce pas? Je ne devrais pas porter jugement sur quelque chose que j'ai pas vu.
Oui.
Je trouve que ça regarde mal, mais qui sait, je pourrais être surpris.
Peut-être surpris parce que les bandes annonces, parfois, vous savez, hein? Ouf. Merci, Marcel, pour nous avoir fait découvrir ce chevalier, un sans-titre, finalement, qui a eu de grandes réalisations.
Tout à fait.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Alors, Francine, vous nous parlez de Youssef et de Arnaud qui ont fait un lien avec la semaine dernière. On a fait une entrevue avec quelqu'un qui souffrait de, ben, qui vivait avec l'Asperger.
Ouais.
Je pense que c'est le cas encore ici.
Ces deux autistes dont Catherine Enfield a parlé dans un écran de la Presse Plus, je m'excuse, qui a été publié le 15 janvier dernier. Alors, ces deux autistes qui se sont retrouvés à travailler à la grande bibliothèque, comme on l'appelle, dans le quartier latin à Montréal. Et pourquoi on en parle, c'est que les entrevues d'embauche, c'est pas la tasse de thé des autistes,
oui.
Mais parfois, justement, quand on passe par le biais de stage, ça peut peut-être nous amener à quelque chose de différent.
Et d'un point de vue de l'employeur, ça amène des découvertes.
Exactement,
aussi.
C'est que l'employeur est en mesure de voir les compétences et les qualités. Et c'était une très belle entrevue parce que ces deux personnes sont arrivées à leur fin. Ils ont été employés, ils ont remplacé des employés pendant les vacances d'été. Et par la suite, bien, il y en a un des deux qui a pu obtenir un poste permanent. Et on dit que sa progression a été fulgurante.
Oh mon Dieu, peut-être qu'on pourrait l'appeler pour Au-delà des limites.
Peut-être, on ne sait trop.
Alors, on prend une petite pause et au retour, on va parler techno et on va parler de Moelle Épinière et Mobilité Québec.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Et on commence notre troisième demi-heure. On voit le fil d'arrivée, mais il y a encore beaucoup de choses à venir. Et ça commence avec Francine qui va nous parler de sujets de techno. En particulier, je ne sais pas si vous allez vous rendre jusque-là, Francine, hein, le chat GPT, ça commence à être un terme qu'on entend de plus en plus souvent.
Je vais en parler parce que, en fait, ce que je voulais faire la semaine dernière, mais on a eu d'autres sujets techno qui
ça arrive,
étaient
hein?
plus importants. Il y en a tellement dans l'actualité, effectivement. Je vais revenir un peu sur la chronique de la semaine dernière, mais que j'ai enrichie depuis. Des techno, donc le bilan 2022
oui.
Et qu'est-ce qui devrait marquer 2023. Je m'appuie sur, je dirais, mes chroniqueurs préférés, donc Maxime Johnson dans l'actualité.
Ah, je pensais Bruno,
Guglielminetti dans l'infolettre. Et je vais aussi aller faire un petit tour du côté de Karim Benessaï de la Presse Plus. Alors, c'est un petit résumé de tout ça.
Mm-hmm.
Alors, on ne peut pas parler de 2022 sans parler de Elon Musk qui s'est payé Twitter. Alors, c'est vraiment un fait important. Il a, bon, essayé toutes sortes de choses pour modifier Twitter.
Mm-hmm.
Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui a changé, fondamentalement.
Heureusement.
Il a ouvert la porte à certains qui peut-être devraient plus être là, mais en tout cas, qui sont revenus.
Oui, oui.
Bref, on peut dire que Twitter continue. Il y en a qui ont quitté Twitter, mais qui sont revenus. Et en fait, Mastodon, oui, il n'a pas pu reprendre la relève, là, comme certains l'avaient mentionné.
Mais je pense que c'est compliqué, Mastodon. Hein,
c'est compliqué. Oui, oui, moi, je l'avais essayé, puis c'est compliqué. Je vais parler aussi du droit à la réparation qui fait son chemin. Le droit à la réparation, c'est en fait à réduire la surconsommation et la désuétude des gadgets électroniques. Et il y a même en Europe des projets de loi pour ça, c'est-à-dire qu'il faut s'organiser pour qu'il y ait des réparateurs indépendants, qui puissent réparer justement nos outils technologiques plutôt que les lancer au rebut dès qu'on commence à avoir des petits problèmes ou quand il y a des malfonctionnements qui arrivent.
Je pensais qu'Apple était très...
Oui.
Secret pour ces affaires-là?
Bien, il est secret, mais disons que de plus en plus, on ouvre la porte parce qu'il faut faciliter. Et les trois, ils ont fait du chemin, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire Apple, Google et Samsung. Ils facilitent désormais un peu les réparations à la maison, nous dit Maxime Johnson.
J'aime votre un peu avec un sourire dans la voix.
Un peu, oui, j'ai un gros sourire dans la voix. Évidemment que je ne peux pas passer l'année sans parler des intelligences artificielles qui se développent de plus en plus.
On a peur à notre job, là.
Évidemment, du chat GPT.
Mm-hmm.
Et qu'on en a parlé, il ne se passe pas une semaine depuis qu'on a entendu parler de ce fameux chat GPT à la fin de l'année 2022.
Puis j'entends plein de gens qui l'essayent.
Il y a plein de gens qui l'essaient et ils trouvent ça pas pire en général.
Oui,
hein?
Ça donne
ils
des résultats surprenants.
Pas pire. Bon, à propos de ça, on peut dire que OpenAI, pour 2023, qui est à l'origine de la création du chat GPT, travaille sur un outil qui sera encore plus puissant, le GPT-4.
Est-ce qu'on devrait être content ou on commence à avoir peur?
Ben, c'est une question de point de vue. Il y a plein de gens qui ne sont pas contents, mais il y en a d'autres qui sont contents.
D'accord.
Google va lancer un concurrent cette année, en version bêta cependant, donc ce qu'on appelle les tests privés, en français on doit dire des tests privés, qui va s'appeler Sparrow.
Sparrow.
Oui, comme le moineau. Comme le moineau. C'est une sorte de moineau, ça. C'est un bruant.
Je pensais que c'était le pirate Jack Sparrow. Je ne me souviens pas de la série. C'est peut-être un peu ça,
mais un sparrow, en général, c'est une sorte d'oiseau.
Oui, effectivement.
Alors, toujours sur chat GPT. Doit-on avoir peur? Bon, premièrement, si on lit Karim Benessaï ce matin dans la Presse Plus, on apprend qu'il y a déjà quelqu'un, en fait deux personnes, qui s'appellent Nabil Taïeb et Vincent Terrazi, à Montréal, qui ont développé Draft and Gold. Qu'est-ce que Draft and Gold? Draft and Gold, c'est un empêcheur
de tourner en rond?
Ben, pas de tourner en rond, mais un empêcheur que, je dirais, le chat GPT envahisse tous les, je dirais, les univers, principalement de l'éducation.
Donc, c'est un concurrent.
Puisqu'il permet, non, de reconnaître le plagiat.
Oh!
Bon, évidemment, il y a des limites. Oh. Là, si vous lisez l'article, vous allez voir que, bon, sa force, c'est que ça lui prend 500 secondes pour déceler le problème, mais pour le moment, c'est 400 caractères. Mais bientôt, on va le développer davantage et ça va devenir un outil puissant. La chasse au chat GPT, elle est ouverte pour ceux que ça inquiète beaucoup, c'est-à-dire quand on parle de chasse, concurrent, je ne crois pas. Google peut-être est en mesure de faire quelque chose pour qui pourrait écraser d'ailleurs ce chat GPT avec les banques d'informations dont il dispose, mais c'est surtout qu'on va être capable sûrement de créer un certain nombre, je dis bien un certain nombre, parce que les limites de l'intelligence artificielle, qui, je vous le rappelle, fonctionne sur de l'accumulation de données, sont grandes.
Des limites qui n'existent presque plus maintenant. Hein?
Qui n'existent presque plus, effectivement, parce que on compile tout le temps des données et je rappelle que nous contribuons à la compilation de ces données par toutes nos fréquentations sur le web, par l'utilisation que nous en faisons également. Chaque fois qu'on commande quelque chose, chaque fois qu'on intervient dans un chat, chaque fois qu'on visite des sites, voilà. Toujours sur chat GPT, il y a un guide pédagogique qui existe.
Arrêtez donc, oui.
Je l'ai consulté. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que les enseignants vont le trouver intéressant? En fait, ce guide, c'est pour un usage du chat GPT. À la base de ça, c'est qu'on se dit, plutôt que d'essayer de le battre, hein, allons plutôt voir comment on pourrait l'utiliser.
If you can't beat them, join them.
Join them, c'est ça. Et ça a été écrit par Andrew Erft, qui est un éducateur, qui a été traduit d'ailleurs, ce guide-là, par quelqu'un d'ici, Alexandre Gagné. Le but, c'est de proposer des tâches plus complexes aux élèves. Il y a des attentes claires là-dedans. On utilise des exemples de haute qualité, puis ça permet de créer des histoires qui sont immersives, du type « vous êtes le héros » ou des choses comme ça. Alors, ça peut être très intéressant pour des étudiants du secondaire. En plus, on propose des modes d'évaluation, c'est-à-dire qu'on prône l'évaluation continue plus qu'on parle de pédagogie. Mmh. Alors, on y va pour l'évaluation continue là-dedans plutôt que de faire des évaluations de type traditionnel à des moments très précis dans un cours. Et on parle même de la gestion de classe avec des outils
jusque
comme
là.
GPT. Alors, je ne sais pas si en fait les pédagogues sont d'accord avec moi, mais moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Rapidement, finissant, parce que je pense que ça peut tous nous concerner. Il y a des scientifiques qui ont créé une batterie qui est capable de faire fonctionner un téléphone pendant 400 ans.
400 ans?
400 ans. Alors, c'est une expérience à partir d'un prototype qui a été menée par une doctorante, Mia Letai, qui est une doctorante américaine. Et il y a peut-être là un espoir pour nos téléphones, n'est-ce pas? En 2023, ben là, je ne veux pas créer d'attente.
Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir une batterie qui fonctionne 400 ans quand notre propre expérience de vie est de 84?
Bon, là, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser sur nos appareils, même quand ils sont gruges énergivores. Écoutez, avec les intelligences artificielles, là, on ne sait pas là, comment ça va être difficile. À chaque fois que vous faites une mise à jour de votre tablette et tout ça, et vous voyez comment elle devient de moins en moins performante parce que vous avez trop de stock, comme on dit en bon français. Ouais. Ben, c'est la même chose. Il faut penser à des batteries qui sont beaucoup plus solides.
C'est bien compris. Alors, merci pour ce parcours-là, ce survol. Et on se reparle là-dessus la semaine prochaine. Et j'ai l'impression, moi, que le chat GPT va revenir de plus en plus. On se tourne maintenant vers Moi, Lépinière et Mobilité Québec. Je parle à quelqu'un avec qui je n'ai pas parlé depuis un bon petit bout, avec Vanessa Anne-Paré. Bonjour, Vanessa.
Bonjour, Yvan. Effectivement, ça fait longtemps. Bonne année.
Bonne année.
J'ai encore le temps de
vous
souhaiter.
Aussi, parce que vous, la dernière fois, c'était votre collègue de Québec qui avait le micro. En fait, on dit que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. C'est pas vrai. On se parle toujours la semaine avant.
Non. Mais ça, on ne le dit pas aux auditeurs. Là,
OK, oubliez ce que je viens de dire.
Bon. C'est bon.
Alors, Vanessa, comment a été votre soirée d'hier?
Ben, ça a été, ça a été le fun. Hein. C'est des jeux de société, c'est toujours agréable. C'était, en fait, juste pour mettre en contexte, une activité qui s'appelle les jeux de redis. Donc, une activité, de jeux de société, mais ce n'est qu'un prétexte pour permettre le rassemblement de personnes qui ont différents types de limitations motrices, donc lésions médulaires ou autres. Puis, c'est une formule qui a été créée par nos collègues du Bureau de Québec et on a décidé de l'essayer à Montréal. Et ça a été vraiment une première très agréable. C'est pas un immense groupe. Là, on avait 6 participants, plus mes 2 collègues et moi-même. Donc, ça a été l'occasion de faire connaissance, de tester des jeux, de voir un petit peu là, les besoins, les intérêts. Puis évidemment, on a parlé d'un paquet d'autres choses aussi là, autour de ces jeux-là. Mais ça a été donc une belle première.
Par curiosité, vous avez joué à quoi?
Hey boy, on a joué à tellement pas bonne pour retenir les noms. Ben, il y avait Scrabble échec, ça c'est connu, Backgammon. Okay. Ça, c'est des jeux plus classiques. Il y avait un jeu, c'était un jeu de rapidité. Il fallait associer une lettre à une image, puis rapidement penser à une catégorie, dans une catégorie donnée, à quoi ça trouver un mot qui correspond, là, donc rapidement. Mm-hmm. On avait un jeu aussi, c'est une collègue qui a apporté ça sur Hydro-Québec, qui date, mon Dieu, de l'époque de Passepartout, là, c'est des années 80, fait qu'on essayait de comprendre.
La première série de Passepartout.
Oui, c'est ça.
Ça,
c'est vieux comme ça, puis on essayait de comprendre les règlements. C'était pas trop clair, mais en tout cas, on a eu du plaisir là, à essayer de jouer à ça.
Et ces jeux de redis vont se répéter à quelle fréquence?
On prévoit en faire une fois par mois environ jusqu'en avril, en fait, jusqu'à ce que que ce soit agréable de pouvoir sortir à nouveau à l'extérieur. Et juste mentionner que les dates qui ont été annoncées, on va devoir apporter des petits changements à l'horaire. Donc, on va vraiment revoir les dates et bien les communiquer à nos membres pour la suite.
C'est bon. Et ça nous amène à la reprise des activités d'hiver.
Oui, exactement. On est de retour de vacances. Ça fait un bon 3 semaines, je dirais. Donc, on est en train. Janvier, c'est toujours le moment où on fait notre planification d'activité jusqu'au printemps, même l'été, parfois l'automne. Et on a il y a une belle activité d'envergure sur laquelle on commence déjà à plancher, qui est le salon du véhicule adapté.
Oui.
Donc, ça, c'est ça fait longtemps que la dernière édition, je crois qu'elle a eu lieu en 2019. En fait, moi, je travaillais pas pour l'association à ce moment-là. Puis, il y a eu la pandémie entre-temps. Il y a eu notre 75e anniversaire qui nous a vraiment tenus occupés. Donc, c'est la première fois qu'on en refait un. Et ça va se tenir à Saint-Hubert, au Centre montérégien de réadaptation, qui s'appelle maintenant CIS de la Centre de réadaptation des déficiences physiques du CIS de la Montérégie Ouest, avec nos partenaires du Centre de réadaptation. Dans le fond, l'objectif, c'est autant on va convier là, les fournisseurs d'adaptation de véhicules que nos membres qui ont des adaptations, que ce soit des adaptations spécifiques ou encore des, comme on dit en bon français, des patenteux là, qui ont adapté, par exemple, un tracteur, une moto ou qui ont bricolé des choses pour rendre leur matériel ou leur véhicule plutôt accessible. Mmh. Donc, c'est de faire connaître ces adaptations-là pour démontrer que c'est possible de se déplacer dans un véhicule à moteur malgré une limitation motrice.
Vraiment intéressant. Et c'est des choses qu'on va faire connaître à l'intérieur des médias ou c'est dans votre c'est dans vos communications internes?
C'est dans nos réseaux, je dirais, parce que c'est quand même c'est assez niché, je pense, comme besoin. Ça concerne moins, je dirais, peut-être le grand public, mais parmi nos partenaires communautaires, c'est sûr que je vais, lors d'une prochaine chronique, je vais vous en reparler là, quand on va approcher de la date. Mais ça concerne plus nos membres et aussi les personnes ayant des limitations motrices là, de façon générale qui sont sur le territoire ou autour. Là.
Parfait. Alors, je prends bonne note et je vous reviendrai avec des questions à ce sujet-là un peu plus tard dans la saison. Je parlais avec Vanessa Anne Paré, qui est organisatrice communautaire et chef d'équipe d'intégration sociale à Moelle-Épinière et Mobilité Québec. Vanessa, au plaisir de se reparler dans un mois.
Au plaisir, Yvan. À dans un mois.
Au revoir. Alors, Francine, on a un nouveau collègue.
Ah oui?
Oui, il y a une émission qui commence cet après-midi et c'est de cette émission dont on va parler. Je parle avec Jean-Marie Lapointe. Bonjour, Jean-Marie.
Salut mes amis collègues.
Merci.
Bonjour.
On a l'habitude de demander à nos collaborateurs quelle température ils font dans leur coin. Puis aujourd'hui, je leur demandais, est-ce que vous aimez les doux flocons qui descendent du ciel? Je pense que vous ne répondrez pas dans le même sens.
Non, moi j'ai la chance d'être à Jensen Beach, qui est en Floride, parce que j'ai des amis... André puis Marie-Hélène qui ont loué une maison pour une couple de mois ici. Et André, c'est un de mes meilleurs partenaires d'entraînement en canot-kayak. Et on s'entraîne habituellement l'été ensemble sur la rivière des Milets, la Boisbriand. Puis là, ben, on a pris la décision de s'entraîner ensemble. Donc moi, je vais passer une semaine et qui se termine parce que je rentre à Montréal lundi, mais je vais y retourner au mois de mars pour faire une autre semaine d'entraînement. Alors, j'avoue que je suis un futur snowbird en préparation.
Un futur snowbird, mais en bateau.
On parle beaucoup oui, de... Oui, excusez, continuez.
Oui. Non, mais c'est ça. C'est parce que moi, je fais du bateau dragon l'été depuis une c'est quinzaine ça, d'années. Oui. J'ai découvert le canot-kayak, la pirogue, tout ce qui s'appelle embarcation sans moteur. Puis, c'est une passion pour moi. Puis, ça fait partie de mon lifestyle, mon mode de vie. Puis là, ben, je découvre la joie de m'éclipser de l'hiver pendant quelques jours et peut-être quelques semaines dans les années à venir. Si Dieu le veut, c'est ce que je vais faire.
Mais entre-temps, à 17h cet après-midi, on va vous entendre sur les ondes de Canal M avec une nouvelle émission qui s'appelle Porte-parole.
Exactement. Puis je suis très, très, très content d'avoir répondu oui à l'invitation de mon cousin. Je l'appelle affectueusement mon cousin Philippe Lapointe, qui est notre patron oui. à la station. Puis Philippe, que j'ai connu il y a plusieurs années, évidemment dans le milieu de la télé et de la radio, c'est un petit monde, donc on finit par se croiser. Puis il y a quelques années, Philippe avait relevé le défi de lancer la station Ami Télé, ce qu'il a fait avec brio, puis j'avais collaboré avec lui pour différents projets. Puis là, quand il est rentré à Canal M, il m'a dit « Jean-Marie, on te donne carte blanche. Qu'est-ce que tu veux faire avec nous? » Je dis là, Philippe, précise un peu. C'est moi qui veux que je fasse la météo. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit non, on veut que tu fasses ton émission. C'est parfait. Je me reviens d'abord. Marie-Philippe Lemarbre, qui est mon agente partenaire depuis 10, 12, 15 ans, je ne me souviens plus. On s'est assis et on a pondu ce concept-là. D'ailleurs, le titre vient d'elle parce que quand j'avais dit à Marie-Philippe, je dis, écoute, moi, là, c'est pas compliqué. Si je veux faire la radio, c'est parce que j'aime les gens, puis je veux faire découvrir les gens. J'adore les entrevues, puis je veux qu'on aille en profondeur au-delà des entrevues de 5-10 minutes qu'on a malheureusement trop souvent dans les médias qui sont nécessaires, mais on n'a pas le temps d'aller en profondeur. Donc, c'est ce que je voulais faire. Et effectivement, le concept, c'est venu tout seul. Moi, je trouvais les amis que j'ai dans le milieu, c'est des gens que j'adore, et ceux qui sont engagés, ils ont des belles voix, ils ont des belles intentions. Et ça commence tout de suite aujourd'hui avec Marina Orsini. Je viendrai avec les autres qui ont confirmé, mais Marina Orsini, oui, on sait qu'elle a été porte-parole de telle jeune pendant plus d'une vingtaine d'années. Mm-hmm. Puis là, maintenant, elle est rendue avec la ligne parent. Elle a lancé le flambeau de telle jeune à Sarah-Jeanne Labrosse, puis elle a toujours continué son engagement. Alors, Marina Orsini, moi, je la connais depuis plus de 30 ans, puis elle m'inspire, cette dame-là. C'est une femme que j'adore et je voulais connaître. Mais pourquoi elle a fait ce bénévolat? Pourquoi elle est engagée? Et je pose les mêmes questions au niveau de l'engagement humanitaire à tous mes invités. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'intimités qui sont dévoilées dans leurs réponses, de par leur nature, de par les racines, l'éducation, les valeurs profondes que ces gens-là portent en eux. Et c'est ce qu'on fait. Donc, le concept de l'émission, c'est une émission à grosso modo de 58-59 minutes. Ça va se faire aussi en podcast, donc c'est sûr que tous ceux qui ont des Spotify, puis les Apple, puis bon, les différentes plateformes, on va pouvoir les écouter, mais on a la grande première ici sur Canal M avec Marina Orsini. Alors, la première demi-heure, on parle de l'engagement. Pourquoi les personnes s'engagent? Qu'est-ce que ça leur apporte? En quoi ils sont payés bénévolement, mais on est enrichi de notre engagement? Puis dans la deuxième partie, c'est là que ça devient un peu original. C'est un vieux concept que j'avais déjà imaginé comme émission de radio. Et ce qu'on fait, c'est que j'ai à peu près une 25-30 questions que j'ai écrites à la main, que j'ai découpées en petits papiers. Ah. Et je fais piger à travers un chapeau les questions. Et mon invité les lit à voix haute à la radio. Donc, il n'y a aucune préparation. La personne n'a aucune idée sur quelle question elle va tomber. Mais c'est des questions à saveur, j'allais dire, philosophique, spirituelle, au niveau des morales.
Ah, donc,
par exemple, tu sais, mettons, je pose à la question, la personne pige une question, puis qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit écrit sur ton épitaphe, sur ta pierre tombale?
Oui.
Je trouve ça beau parce que ça permet à la personne de prendre un peu de temps de recul et de dire, oh, attends une minute, c'est quoi l'œuvre de ma vie finalement? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi? T'sais? Bon, ce genre de questions-là, ou encore, si tu n'avais pas fait ce métier-là, qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Alors, tu vois aussi, dans ce genre de questions, j'en ai eu plus d'une vingtaine, 20, 25, 30, je ne me souviens plus combien j'en ai écrites, mais je mets ça dans un chapeau, puis c'est l'invité qui pose ces questions-là pour la deuxième moitié.
OK. Et maintenant, je pense que Francine, vous avez une question rapide?
Bien, en fait, je dois vous dire qu'il a répondu à toutes mes questions!
Alors, rapidement, Jean-Marie, après Marina Orsini, quels vont être les autres invités?
Confirmé et déjà enregistré, on a Penelope McQuaid, Vincent Gratton, Mario Cecchini et sa conjointe Danielle Simard. Moi, je les ai connus quand j'ai accompagné en fin de vie la petite Johanna Comtois. Puis Mario, ben, c'est un grand patron des communications qui est impliqué à la radio, Astral, Cogeco et compagnie. Oui. Bon, mais il a aussi été récemment, jusqu'à tout récemment, le président des Alouettes de Montréal.
Oui, exact.
Donc, on le connaît d'un point de vue homme d'affaires, mais Daniel, sa conjointe, c'est sa partenaire de vie depuis des dizaines d'années, mais aussi, pourquoi je les ai invités pour porte-parole? Parce que c'est toutes des personnes qui sont engagées et ils portent la parole d'une cause. Mais c'est parce que Daniel a eu un cancer du sein il y a plusieurs années et depuis, ils se sont impliqués beaucoup. T'sais, ils ont leur fondation, ils lèvent des fonds, donc pour le cancer du sein. Donc, c'est intéressant d'avoir une vision qu'on ne connaît pas de Mario et de Daniel. Et là, ben, dans la prochaine salve d'enregistrement, ben, j'ai déjà des perches de lancer. J'ai la confirmation de notre chère femme de première ministre qui est au-delà de ça. Il y a Sophie Grégoire qui va venir. Puis moi, Sophie, mais ça fait des dizaines d'années que je la connais. Puis ce qu'on connaît moins d'elle, c'est tout son engagement humanitaire. T'sais, oui, elle a pris la parole par rapport aux troubles alimentaires dont elle a souffert plus jeune. Mais on va se permettre d'aller en profondeur parce qu'on se connaît bien, on se fait confiance. Parce que c'est ça aussi, hein, de faire une entrevue quand tu te lances dans le vide, c'est une question de confiance, c'est une question de foi, d'écoute aussi, puis d'avoir du plaisir ensemble à la radio.
Bien sûr.
Et j'ai des bons amis dans le métier qui m'inspirent, comme Annie Pelletier, Étienne Boulay. Il y a d'autres personnes qui sont à confirmer, Francis Redé. Donc ça, c'est les gens qui ont presque confirmé. Il faut juste maintenant placer à l'horaire cette heure d'entrevue.
Je vous arrête là. On se garde des surprises. Ça commence aujourd'hui.
Vendredi, oui, aujourd'hui, c'est ça.
À 17h, il y a des rediffusions prévues à 13h30 lundi et samedi prochain, pas samedi 21h. Demain. Samedi prochain, oui, demain, à 21h. Et évidemment, sur le web, on peut rattraper ça. Jean-Marie, merci beaucoup pour cette présentation. Puis je vais peut-être faire un petit détour pour aller vous voir une prochaine fois.
Ici.
Ici. Pas en Floride, mais ici.
Non. Ah oui, oui.
Mais
pas de problème.
En Floride, peut-être. À la prochaine.
Mais pourquoi pas avoir une antenne ici en Floride? Ce serait le fun, non?
Bon, on est d'accord, on est d'accord.
Je note.
Alors, c'est bon, merci les gars.
Au revoir.
Merci les amis, merci mes collègues. On peut plus dire futurs collègues, mais là, on est des vrais collègues.
Voilà, c'est fait.
Bonne émission.
Merci, au revoir. Francine.
Bien oui, on va enchaîner rapidement. Je vais vous parler d'une chose parce que c'est très accessible. C'est le festival de films plein écran, puisqu'on parlait des films québécois. Ce sont des courts-métrages. Ça a commencé le 18, ça va jusqu'au 29 janvier. Il y a quelques activités en présentiel, mais c'est surtout quelque chose qui est très, très accessible sur Facebook ou Instagram. C'est gratuit. C'est de courte durée, donc on peut les écouter en attendant de faire autre chose, quand on est dans une salle d'attente.
Oui, c'est à ça que je pensais.
C'est très intéressant, il y a toutes sortes de petits bijoux là-dedans. Et aussi, c'est disponible sur la plateforme de la Fabrique culturelle. Hein, vous savez, ce site culturel de Télé-Québec qui est extraordinaire. Si vous ne le connaissez pas, ça va vous donner l'occasion d'y aller et de vous abonner à l'infolettre. Donc, pleins écrans, vous n'avez qu'à googler ça. Et c'est le temps de vous dire, j'espère que vous aurez un beau week-end, de vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, de remercier notre metteur en onde, Mathieu, mon collègue, Yvan, et de vous dire à la semaine prochaine.
Et de ma part, je souligne que à midi, c'est les passions de Camille.
Oui, on m'empêchait de le dire la semaine dernière, mais ça a commencé la semaine dernière.
C'est pour ça que je voulais le souligner. Et comme vous avez entendu, il y a plein d'autres émissions importantes, en particulier à 17h. Alors, on se reparle la semaine prochaine.